Notre texte. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Jacques, chapitre 1er, un passage qui n'est pas méconnu à la plupart de la famille de Dieu. C'est intéressant, c'est plus que curieux que ça ne fait pas trop longtemps après la conversion à la foi du Seigneur, qu'on trouve, on tombe déçu, ou on est dirigé par quelqu'un d'autre à ce merveilleux passage, parce que c'est un passage qui est très 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 proche à ceux qui vivent jour après jour pour le Seigneur Jésus-Christ, avec la vie du Seigneur dans notre propre vie. Nous, comme nous disons assez souvent, sommes des créatures créées pour adorer Dieu. Adam et Ève, dans le jardin, ne faisaient que ça. Avec toutes leurs activités du jardin, chaque activité, chaque moment, chaque réflexion était une réflexion de leur Créateur, pur, saint, sans aucune tache de mauvais, ce que Satan ne pouvait pas du tout supporter. Et quand il disait à Adam et Ève, écoutez, vous ne connaissez que la moitié de la vie, rien que le bien. Comment pouvez-vous apprécier le bien si vous ne connaissez pas le mal? Le mal, c'est quoi ça? Ils ne le savaient pas. Le mal n'existait pas. Ils ne faisaient que adorer Dieu. Et vous connaissez comment l'histoire a commencé, tout au début de l'humanité. L'homme a décidé d'écouter à Satan pour pouvoir être éduqué, être formé, être à la mode, être juste à la limite de ce qui était progressif, de savoir plus que d'autres. Et ils sont tombés dans le péché. Créés pour adorer Dieu, ils n'adoraient plus Dieu. Créés pour glorifier Dieu, ils ne glorifiaient plus Dieu. Et pourtant, Dieu voulait qu'il continue à faire pour ce pourquoi il est fait. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de renversement de ce problème de déconnexion entre le Créateur qui mérite toute adoration et le créature qui ne voulait plus vivre sa raison d'être. Adorer Dieu et glorifier le Seigneur. Et Dieu leur avait mis en dehors du jardin et leur avait promis, à partir du maintenant, vous ne connaîtrez que des problèmes, que des troubles, que des épreuves, que de la souffrance. Punition? Oui et non. Aucun autre moyen pour que l'homme, maintenant, dans un état éloigné de Dieu, pourrait jamais vouloir chercher Dieu. Nous avons chanté ce matin, dans presque tous les cantiques, les troubles qui arrivent et qui nous forcent à regarder vers le Seigneur. Il n'y en a aucun qui n'est pas dans ce but, que ce soit pour les inconvertis, que ce soit pour des convertis. Et donc, nous voulons aujourd'hui regarder dans ce passage, donc plutôt ce verset. Parce que Jacques et Jean, Jacques et Paul sont considérés souvent comme un peu comme contraires l'un à l'autre. Nous lisons que Paul parle souvent de la foi et que Jacques parle souvent des œuvres, et Paul met l'accent de la foi, et Jacques met l'accent des œuvres. Je veux dire que je ne suis pas d'accord du tout avec cela. Je crois que Paul met grand accent, primordial sur la foi, et Jacques met primordial aussi la foi comme étant très très précieux, comme étant le moyen à travers puis cette déconnexion puis devenir une reconnexion. Donc, quand vous considérez, j'avais juste passé du temps de réfléchir sur cette idée hier soir, la foi par rapport à Paul, un don à part les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par des bonnes œuvres. Jacques aussi met accent sur la foi, un don qui résulte en des bonnes œuvres. La foi est primordiale, par contre. Paul parle de la source de la foi et Jacques parle de la démonstration de la foi. Paul, la définition de la foi, et Jacques, l'illustration de la foi. Paul parle de l'essence, la substance de la foi, et Jacques parle de la pratique de la foi. Ce que c'est la foi, Paul nous montre. Ce que ce n'est pas la foi, Jacques nous montre. Comment posséder la foi, Paul, comment pratiquer la foi, Jacques. Paul déclare une foi authentique et Jacques nous fait découvrir une foi non authentique. C'est pour une raison que j'ai mis nos épreuves devient, pour les non-croyants, pour les croyants, les deux, une démonstration de la réalité d'une foi authentique depuis le jardin de Éden. Imaginez des épreuves sont une chose que on en parle souvent entre nous. Les épreuves sont une chose que nous en parlons depuis ce pupitre assez souvent. Peut-être il y a des gens qui disent encore, « Oh, est-ce que nous parlons encore des épreuves ? Pourquoi un message sur des épreuves ?» Jacques 1:2 est un verset qui est assez connu. Pourquoi pas aller d'autres parties ? Vous savez, on fait des voyages à travers la totalité de la Bible. Mais il est difficile, même dans ces passages, de ne pas tomber sur ce sujet des épreuves. Et tout le monde est ou attiré ou repoussé, souvent par rapport à ce qu'ils avaient déjà entendu. Quand vous parlez des épreuves, ou quand vous avez une épreuve, quel est le premier désir qui arrive à votre esprit ? Quel est le désir qui continue si l'épreuve continue? Quel est le désir qui est primordial par rapport au, et j'ai pensé à deux mots, soulagement, élimination? Assez souvent, où il est prêché comme ça ou non, nous prenons le message ou nous prenons le passage ou nous prenons la discussion sur les épreuves comme une... On présuppose que ça existe pour que nous puissions au moins se sentir soulagés, mieux éliminer des épreuves. Ce que Jacques va montrer à travers son épître, c'est que les épreuves sont essentielles. Et Pierre, nous avons déjà vu ça, on a parlé du premier chapitre de Pierre assez souvent, et a prêché assez récemment sur le fait que l'épreuve existe à cause de la préciosité de notre foi. Dieu est concerné que notre foi soit non seulement intacte, mais que ça soit ça soit vital, que ça grandit, que ça prenne de la santé, que ça puisse nous motiver d'aller en avance. Et il sait, sans épreuve, il ne peut pas le faire. Quand vous avez dans votre voiture un warning qui flash sur le panneau de bord, le tableau de bord, et vous regardez l'aiguille remonte en température, vous savez, ah, il y a un problème, et vous arrêtez la voiture, vous voyez, il n'y a pas d'eau dans le radiateur, heureusement, vous en avez un jerrican de d'eau, vous le mettez dans le radiateur, et puis, le warning éteint, la voiture refroidit, et puis vous reprenez la route, joyeusement, mais ah, ça recommence. Et vous arrêtez la voiture de nouveau, vous remettez encore d'eau, vous reprenez la route, et puis voilà, c'est bon. Et puis, ça recommence. Écoutez, après le quatrième ou cinquième fois de ça, vous devez soupçonner qu'il y a un problème qui est plus qu'une warning qui fâche, et qui est plus même d'un radiateur qui est vide. Pourquoi le radiateur est vide? Vous soupçonnez un problème, vous détectez le problème, vous trouvez le problème, vous réparez le problème, et puis voilà, ça va après. Ah bon? Maintenant je comprends, quelqu'un dit. Tu dis que les problèmes, les troubles existent pour la santé de notre foi. Alors, si seulement j'avais la foi, si je prends ce problème, je grandis dans ma foi, les problèmes vont donc diminuer. Parce que c'est notre but, n'est-ce pas? L'élimination du problème. Élimination de troubles. Élimination des épreuves. Le grand utopie, c'est que si on pourrait arriver jusqu'à un moment donné, on a assez d'argent dans le banque, on est bien assuré, s'il arrive quoi que ce soit, on a plusieurs voitures, on a assez de choses, on prévoit toutes les choses qui pourraient jamais arriver, et puis, voilà. Plus d'épreuves, ça c'est le but, plus d'épreuves. Donc s'il faut que je grandisse en foi, plus d'épreuves, je grandirai en foi, parce que j'aime pas les épreuves. Alors si nous avons cette mentalité, et c'est une mentalité, notre but c'est d'éliminer les épreuves, ou au moins de soulager les épreuves, autant que nous présumions que Dieu est en train de travailler dans notre vie, afin que ces deux buts soient éteints. Nous allons tourner en rond constamment, et ça revient, ça ne change rien au fond, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le but des épreuves, d'éliminer. Vous voulez utiliser la foi comme un objet de terminer par faire le plus grand désir de votre vie, l'élimination de toute épreuve, être soulagé si jamais il en arrive. Et ça n'est pas non plus le but. Donc, il y a deux choses que nous pouvons voir dans ce chapitre. Première chose, c'est il faut une compréhension biblique par rapport aux épreuves. J'aurais pu appeler ceci une théologie des épreuves. Si nous sommes bloqués par le désir d'éliminer les épreuves et de penser plus que je grandis dans ma foi, moins qu'il y ait des épreuves, ah, un défaut, ce n'est pas ça. J'espère que nous pourrons voir ça. Il faut une compréhension biblique des épreuves. Et plus que nous avons une compréhension biblique des épreuves, plus que nous pouvons proportionnellement changer notre attitude par rapport aux épreuves pour que nous puissions être à 100% obéissantes à ce verset. Mes frères, regardez, considérez, contemplez, scrutez, réfléchissez sur un certain fait que les épreuves sont un sujet de joie complète auquel vous pouvez être exposé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Nous avons l'impression que les épreuves sont un sujet, oui, la Bible dit, c'est, regardez, comme si c'est, ce n'est pas, mais comme si c'est. Non, ce n'est pas l'enseignement de ce verset. Ce n'est pas prétendez que c'est un sujet de joie. Ce n'est pas un sujet de joie, mais il faut quand même prétendre que c'est un sujet de joie. Ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement, c'est de le voir tel qu'il est. C'est-à-dire, comme j'ai dit, sur le titre, une démonstration de réalité plutôt que non-réalité. Nous vivons quelque part entre la réalité et la non-réalité. On peut très facilement pousser le bouton pour refuser de voir la réalité, de pousser vers la fantaisie, d'imaginer ceci ou cela, loin de la réalité. Nous ne sommes jamais purement dans la réalité. Même nous, enfin ça c'est l'objet, ça c'est un des objets des épreuves que Dieu permet pour que nous avancions plus vers la réalité qu'ailleurs. En constant, parce que quelle est la réalité ultime? Dieu est la réalité ultime. J'avais souvent dit ceci. Plus qu'on avance vers Dieu, plus qu'on avance vers la réalité, plus qu'on s'éloigne de Dieu, plus qu'on avance vers la non-réalité. Et ceux qui refusent Dieu, attention, ce n'est pas ceux qui se disent athées. Ce sont des chrétiens qui pratiquent l'athéisme dans leur vie tous les jours. Et vous ne l'avez pas, ne pas fait hier. Vous avez fait. Nous avons une théorie correcte, plus ou moins, de Dieu. Mais nous avons une pratique qui démontre que l'athéisme prend le devant très facilement. Le fait que l'on se plaigne dans une épreuve qui est créée, qui existe exprès, pour que nous voyons la réalité. Et la réalité, c'est que chaque épreuve est un sujet de joie parfaite. Waouh! On est loin de ça. On pratique l'athéisme assez souvent, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux épreuves? Il faut lire toute la Bible, parce qu'il n'y a presque pas une seule page où ce n'est pas le cas. Mais la première chose que nous voulons noter par rapport aux épreuves, c'est qu'ils sont inévitables. Les épreuves sont inévitables. Ils viennent à tout le monde. Depuis Adam, après la chute, il n'y a aucune personne qui est exempte d'épreuves. Si vous avez eu un anniversaire, vous êtes un candidat, vous êtes assurément quelqu'un qui va recevoir des épreuves. Vous ne pouvez pas échapper les épreuves. Dieu vous aime trop pour vous permettre cela. Si vous êtes son enfant ou si vous n'êtes pas son enfant, il va quand même aller jusqu'au point où, à travers des épreuves, vous attendez sa voix pour que tu tournes vers lui. Des épreuves, donc, sont quelque chose qui sont inévitables pour chaque chrétien. L'apôtre Paul, par exemple, Job, par exemple. Job chapitre 5, verset 7. Je n'ai pas mis les versets sur l'écran. Mais Job chapitre 5, verset 7, comprenez beaucoup plus qu'on aurait pensé. Il dit, l'homme naît pour souffrir, comme l'étensile pour voler. L'homme naît pour souffrir après la chute, oui. Il naît pour souffrir. Dieu est trop plein d'amour pour faire naître une personne qui ne va pas souffrir. La souffrance est une chose qui sera absolument nécessaire pour que si jamais il va penser à Dieu, il ne le ferait pas à part la souffrance. Quand les choses allaient trop bien. Genèse chapitre 11, ils se rassemblaient autour d'eux et puis ils disaient, faisons-nous un tour humaniste pour aller jusqu'au ciel avec l'homme comme le roi. Et afin d'éviter ce utopie humaine, Dieu leur a envoyé des troubles, différence en langue. Ils ne se comprenaient pas entre eux. On a jusqu'à présent des guerres qui se font parce que des gens ne se comprennent pas à cause de leur langage, à cause de leur culture, à cause de leur mentalité, à cause de plein de choses. Dieu a effacé cette possibilité. Ça semble de revenir. Mais non, l'homme naît pour souffrir. Sur cette planète, les épreuves sont pour nous. Job a dit aussi, chapitre 14, verset 1er, l'homme naît de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ça, c'est la Louis II. Sans cesse, sa vie est agitée. Pourquoi allez-vous assez souvent dans les psaumes? Moi, j'y vais presque tous les jours, entre autres. Ne t'éloigne pas de moi, dit le psalmiste en 22:12, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Viens, parce que c'est très souvent que nous sommes hors de secours de qui que ce soit, même nos plus proches bien-aimés, notre époux, épouse. Un rideau entre nous, notre problème, et eux, on cherche à s'expliquer, mais, oh Seigneur, il n'y a personne. Viens dans ma détresse. Le Seigneur lui-même dit en Ésaïe chapitre 8, verset 22, 8, 22, Ésaïe, puis il regarda vers la terre et il dit, voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombre angoisse. Il se repoussait dans des épaisses ténèbres. C'est Dieu qui parlait du jugement qui viendrait sur ceux qui rejetaient Dieu dans ce cas. Et puis, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 23, « Tous les jours ne sont que douleurs, disait le prédicateur. » En dessous le ciel, avec une mentalité purement humaine, incapable de voir Dieu qui a son agenda dans tout ce qui se passe, l'homme termine par contempler que n'y a que le douleur. Son partage, il n'y a que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. La vie est une vanité. Il y a plein de gens qui terminent leur vie par dire « La vie est une vanité. À quoi ça sert de continuer à vivre ?» Ça arrive. Ça va arriver aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui n'auront pas le courage de faire ça. Mais ils vont quand même penser, ils vivent jour après jour dans cette angoisse, ce désespoir de savoir pourquoi on existe quand il n'y a pas de sens de quoi que ce soit. Savez-vous que Dieu veut que vous posiez une telle question? Souvent à cause de cela, combien de témoignages existent parce que quelqu'un a terminé par... en plein désespoir, crier à quoi ça sert de vivre? Il n'y a aucune personne qui n'est pas interprétée correctement dans une telle crie par Dieu, qui ne pourrait pas être donnée une lumière de Dieu, ou par mille manières, en fin de compte, il fait par mille manières, tous les jours, parce qu'il vous a donnez le don de vision, vous regardez autour de vous, vous voyez mille réponses à la bonté de Dieu, vous les entendez dans les oreilles, vous les goûtez. En train juste l'autre jour de parler avec quelqu'un, cette sensibilité de pouvoir goûter et reconnaître des goûts. J'ai entendu qu'il y a un goûteur de, je sais pas, je ne connais pas la culture de vin, mais je sais, il y a quelqu'un qui font qui sont très très connus parce qu'ils peuvent reconnaître juste par goûter, je ne sais pas, 100 ou 200, 300 différents de vins, ils peuvent identifier par le goût. Imaginez, c'est Dieu qui, il n'était pas obligé de faire ça. Et pourquoi l'homme ne réfléchit pas? Mais certains disent, les épreuves quand même devraient diminuer pour les chrétiens. Je comprends pourquoi, si quelqu'un est au précipice par rapport à son salut, et plus qu'il avance vers le précipice, plus que Dieu va dire « Arrête, arrête, arrête !» Comme nous avons vu le skit vendredi soir. Ça a commencé par quelqu'un, un petit, qui était trop jeune de réfléchir. Et puis quelqu'un qui était trop occupé de réfléchir. Et puis quelqu'un qui était trop pris par le business pour réfléchir, et qui, quelqu'un qui était trop âgé pour réfléchir. Quelqu'un m'a dit juste il y a une quinzaine de jours que ses parents étaient mécontents parce qu'il y a un nouveau pasteur, et ce pasteur parlait de jugement, et c'est pas correct de parler de jugement, parce qu'il y a des vieilles personnes là, et ça croche leur sensibilité. Eh oui. Trop vieux. Et dernièrement, c'était trop tard. C'était bien, bien, bien présenté par les jeunes ici. C'était le cas. Et pourtant, Dieu a créé des épreuves pour qu'il crie vers nous. Et pourtant, nous disons, oui, mais j'accepte le Seigneur, ça y est, je suis sauvé, j'ai prié une prière et voilà, maintenant je suis en route, les épreuves devraient diminuer. Il y en a qui disent, si vous avez des épreuves, c'est parce que Dieu est en train de juger quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ou si vous avez des épreuves, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Si vous aviez la foi, il n'y aura pas des épreuves. Ah, ça c'est pas dans la Bible. Ça concerne notre foi. Mais ce n'est pas en remonstrance contre l'absence de foi. Une épreuve n'est jamais, alors marquez cela dans votre tête, une épreuve n'est jamais un signe de défaveur de la part de Dieu, à qui que ce soit. Au contraire, c'est un signe d'amour et de faveur. Jamais un signe de défaveur. Les épreuves, donc, quand on est né de l'esprit, sont plutôt que être diminué, il est augmenté. Une chose que j'avais notée ici, il y avait une nouvelle opposition qu'il n'avait pas avant. Jean chapitre 15, verset 20, Jésus qui parle disait, souvenez-vous que la parole que moi je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils vont garder votre parole. Est-ce que le monde a gardé la parole de Jésus? Non. Et ils ne vont pas garder votre parole non plus. Vous serez des épreuves à cause d'être un enfant de Dieu, que vous ne l'aurez pas eu jamais avant. Vous ne serez pas opposé parce que vous priez le Seigneur. Parce que vous adorez Dieu plus que toute autre chose. Parce que primordial pour vous, ce n'est pas votre carrière, ce n'était pas votre popularité, ce n'était pas quoi que ce soit, c'est Dieu. Mais c'est un fanatique. Alors, c'est bien d'avoir une religion dans la poche derrière, au cas où on en a besoin. Mais la religion, c'est exactement ça, c'est au cas où. Mais quand votre religion n'est plus dans la poche, et le Seigneur devant vous, et il est primordial en toute chose, ça gêne au minimum. Il y a une opposition qui a cru. En plus que cela, il y a une nouvelle dimension de saisir ce que c'est des épreuves. Il y a une autre sensibilité, une nouvelle sensibilité par rapport au péché. Nous venons de lire ce matin, Timothée, lisez Romains chapitre 7. Ça c'est, je suis absolument convaincu, ce n'était pas le cri d'un non-croyant, c'était le cri d'un croyant qui a reçu le Seigneur, mais qui vivait sous la loi, parce que la loi est bonne, mais la loi ne fait que condamner. Maintenant il voit avec des yeux dévoilés le sens de la loi. Il est touché dans son cœur, ce qui lui faisait du bien avant lui fait plus du bien. Les choses qui étaient contre quoi il existait, maintenant c'est le contraire. Les choses qu'il aimait, il n'aime plus. Les choses qu'il n'aimait pas, il aime maintenant. Et la manière de vivre dans le monde est en, le principe de base, le monde est en hostilité contre qui que ce soit, où que ce soit, quoi que ce soit, qui voudrait le dérouter de l'indépendance, autodépendance, autonomie de soi. C'est moi le premier, c'est l'humanité qui m'avance, mais pas Dieu. Et donc, il y a une nouvelle sensibilité. Nous sommes des citoyens d'une autre mentalité maintenant, disait l'apôtre Paul. Nous vivons pour lui. Nous ne vivons plus pour moi, pour nous-mêmes. Nous sommes maintenant dirigés, propulsés par une autre mentalité. On est pèlerin, on ne se voyait pas comme pèlerin. On se voyait comme fixe, permanent. On va vers la retraite. Parce que éventuellement, on n'en parle pas, mais éventuellement, après la retraite, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la mort, mais on n'en parle pas. Le chrétien est équipé avec une nouvelle sensibilité parce que sa vie ici est un pèlerinage qui mène quelque part plus loin de la vie. Ici, dans un corps céleste, terrestre et qui est corruptible, il va vers l'avenir. Donc, une autre sensibilité équipé avec cela pour que il est plus éprouvé après qu'avant. Et une troisième nécessité pour comprendre par rapport aux épreuves bibliquement, c'est que il y a aussi une nouvelle formation. Hébreux chapitre 12 verset 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qui le reconnaît comme fils. Je me rappelle très bien quand j'étais plus jeune, mes parents, ils avaient certaines règles pour la famille, et puis les voisins, ils avaient d'autres règles. Eux, ils étaient plus libéraux. Quant à nous, le parent leur a fait faire n'importe quoi. Enfin, le bon n'importe quoi pour nous. Je voulais mon indépendance comme mes frères et mes sœurs. Papa, pourquoi tu ne fais pas comme mon voisin? Papa, pourquoi tu me donnes une fessée et lui fait la même chose? Il ne reçoit pas une fessée, il reçoit un bonbon. Plutôt. Oui, parce que tu n'es pas dans leur famille, tu es dans ma famille. J'ai un agenda pour votre vie. Un agenda biblique. Je veux que tu cultives du caractère. Je veux que tu deviennes quelqu'un de autodiscipliné. Je veux imposer certaines disciplines maintenant dans votre jeunesse pour que plus tard, vous ne serez pas lié à mes disciplines, mais vous êtes une personne qui peut traverser le monde, ne pas tomber dans des pièges qui sont exprès mis pour des personnes qui ne sont pas disciplinées, qui n'ont jamais eu ceci. Ah, quand nous sommes convertis, nous sommes nés de nouveau. Nous avons, à partir de ce moment, une nouvelle formation. Je vais juste lire plus encore quelques versets. Mais, enfants, vous n'avez pas encore résisté. Luttant contre le péché, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Châtiment, mieux discipline. Mieux correction, mieux reprend, réinstalle. Vous êtes viré dans un autre sens. Le Dieu est en train de vous diriger loin du précipice et de vous remettre. Mais ça, il faut de la pression parce qu'il y a de bonbons du monde ici et vous avez déjà cultivé un goût pour ça. Et il y a des épinards célestes ici. Vous n'avez pas encore cultivé un goût pour des épinards. Mais ils sont quand même bons. Dès que vous cultivez un goût ou pas, ils sont quand même bons. Et vous devez marcher dans le bon sens. Et Dieu va pour votre bien. Il va reformater votre procédure de réflexion. À travers la parole, les épreuves sont absolument essentielles, sans lequel on ne serait jamais reprogrammé bibliquement. Et ce n'est pas un mauvais mot. Pourquoi vous êtes à l'école, vous les étudiants? Pourquoi vous vous soumettez à certaines disciplines? La France accorde à chaque étudiant
qui reçoit son bac, une éducation gratuite, universitaire. Et tout le monde, sont exemptes, sauf, tout le monde peut venir, sauf des personnes qui ne veulent pas, mais ils peuvent venir, ils peuvent aller, sans frais. Il y a beaucoup de choses qui sont données pour qu'on puisse financièrement prendre soin de nos besoins à l'école. Et puis, mais après la première année, il y a certaines quand même personnes qui sont filtrées en dehors du système parce qu'ils n'ont pas fait un certain niveau. Et de temps en temps, je passe par le campus ici, je vois un grand quai de personnes qui regardent sur la fenêtre, une longue liste de personnes, des noms de personnes pour voir s'ils avaient réussi ou pas. Et alors, pensez logiquement. Les personnes qui n'ont pas réussi sont éliminées, plus de discipline, plus d'épreuves. C'est bon. Des personnes qui sont acceptées sont acceptées pour plus d'actions sérieuses, disciplinaires, pour qu'ils serrent encore plus la pression, pour qu'ils soient plus sous l'esclavage de leurs tuteurs et leurs profs et leurs facultés. Et puis après la deuxième année, c'est encore pareil. Et eux, ils sont contents, joyeux. C'est pas logique. Libérés pour ne plus avoir de l'épreuve, ils pleurent. Acceptés pour avoir encore plus d'épreuves, ils crient de joie. Sauf dans le programme de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé sur cette idée de réfléchir. Dieu veut qu'on pense. La foi est logique. Les épreuves sont logiques. Dieu n'est pas un Dieu qui envoie des choses sans logique, sans quel est le mot que je cherche, juste capricieusement, parce qu'il sentir un plaisir méchant en écrasant quelqu'un. On a cette impression. Dieu aime écraser. Je ne veux jamais soumettre au Seigneur parce que si jamais je mets, il nous écrase. C'est une mentalité que nous avons très facilement. Dieu ne cherche à écraser qui que ce soit. Et ceux qui se sentent être un écrasement et souvent rien que la main de Dieu, il ne met pas plus de pression nécessaire, mais il met assez de pression nécessaire pour que nous ne tombions pas sur la précipice, pour que nous ayons encore une chance, encore une occasion de ne pas tomber à cause de nos désirs sans réflexion. On ne reflète pas. La logique des épreuves est la logique de se confier en quelqu'un qui a été éprouvé. Supposez que vous êtes dans la médecine et que dans la médecine, vous avancez jusqu'aux premières années et à peine, et puis aux deuxièmes années, vous ne réussissez pas. Thierry, il est là. Thierry a déjà, on a prié avec Thierry. Et ce que j'ai constaté à chaque fois qu'il avance vers plus d'épreuves, chaque fois il est plus content. J'ai jamais pu comprendre ça, Thierry. C'est pas logique. Mais voilà, c'est comme ça les gens dans la médecine. Mais supposez qu'il a raté. Et en ce moment, je tombe malade avec une crise cardiaque. Et puis, tu dis, mon ami, on s'aime beaucoup. Il est allé aux États-Unis avec moi et Annie il y a quelques années. Et puis, Thierry, oulala, écoute, j'ai fait des études, un an et demi, des études sur la médecine. J'étais même dans un hôpital. Oui, mais je dois avoir une implantation du cœur, tu sais. Oui, mais écoute, j'ai vu ça une fois. Enfin, je sais bien comment prendre le couteau et puis ouvrir la poitrine. Et puis, bon, il y a plein de choses à l'intérieur, je ne comprends pas trop bien, mais bon, c'est pas grave. Je ferai de mon mieux, à un prix très réduit, en plus.
Et puis, Thierry, je t'aime beaucoup, mais excuse-moi, je passe. Et puis, t'as démontré, par des épreuves, que tes capacités vont jusqu'ici, mais pas ici. Et moi, je préfère ça. Voyez ? Dieu est toujours en train de nous délivrer par des épreuves. On se met dans son caniveau. Ça coince, mais écoute, on va quelque part. Et le chrétien est en train d'être renouvellement reformé pour sa vie future. Mais la deuxième chose que nous voyons dans notre texte, et ça c'est, mes frères, regardez, considérez, réfléchissez, pensez, c'est logique, d'accord, c'est logique, comme un sujet de joie et complète des diverses épreuves, diversité des épreuves, ça vient tout le monde aussi. Il n'y a aucune personne qui n'est pas atteinte par des diverses épreuves. Pas une question de quantité ici, bien qu'il y en a plein. Mais c'est une question de diversité, de variété, de sources. Variété de sources, variété de sortes. Différentes sortes des épreuves. Différentes sources des épreuves. Les épreuves viennent de notre corps. Eh bien, toujours quand on parle avec des voisins, et surtout la santé, disent-ils à la fin. Surtout la santé. Parce que la santé s'échappe facilement, n'est-ce pas? On voit des personnes qui font du jogging tous les matins, on voit des personnes qui sont constamment en train de s'entraîner. J'ai fait la même chose, je fais de moins en moins intensivement, parce qu'à 66 ans, je ne peux pas faire ce que j'aurais pu faire à 33 ans. Mais quand même, je mets attention à mon corps. Ou je le fais ou je ne le fais pas. Mon corps se dégrade. Et on voit de plus en plus des signes. On va de plus en plus vers chez le docteur. On n'aime pas les épreuves du corps et on n'évite pas en plus. L'homme le plus riche, ou l'homme le plus pauvre, l'homme le plus célèbre, l'homme le plus inconnu, il est pris. Les problèmes du corps, les problèmes du relationnel, au mieux, nos problèmes. Au mieux, nos relations personnelles sont très délicates, au mieux. Les personnes qu'on aime le plus, on n'est pas forcément assuré. On avait le signe ici, un amour qui aime en tout temps. Mais Timothée avait noté le fait que c'est rare de trouver une amie comme ça sur cette planète. En tout temps. Oui, jusqu'ici peut-être. Et certaines même presque jusqu'ici. Mais en tout temps, il y a quand même une limite. Jésus-Christ est un ami qui aime en tout temps. Des relations personnelles, familiales, collègues, travail, mariage. Ah, pas mariage. Parce que ça, c'est la relation la plus intime. Savez-vous, c'est pour toi, Ulysse, tu es réveillé, et Angélique, qui vont se marier le 23 mars. C'est pas encore fait. Écoutez ce verset. Si toutefois tu te maries, tu ne pécheras pas. C'est bon. Et si la Vierge se marie, elle ne pêchera pas. C'est bien. Mais les gens mariés connaîtront la détresse. Savez-vous que quand vous vous mariez, vous votez pour la détresse? Si vous ne le savez pas, sachez maintenant, c'est pas trop tard. Vous connaîtrez la détresse. Vous votez pour les épreuves. Vous votez pour la détresse. vous votez pour la difficulté, c'est bête, pourquoi se marier? Parce que c'est une relation le plus intime, c'est une chose la plus joyeuse dans les relations humaines que Dieu avait créées sur la planète. Et pourtant, vous n'êtes pas exempt, au contraire, vous en aurez plus à cause de votre mariage. Alors, vous êtes avertis, on en parlera mardi soir, encore plus. Et moi, je voudrais vous épargner, dit l'apôtre Paul qui n'a jamais été marié. Bon, on s'arrête là pour, avec notre interprétation. Mais des épreuves sont inévitables, diversifiées et imprévisibles aussi. On ne sait jamais où ils viennent, quand ils viennent, comment ils vont venir, parce qu'ils vont, ils viennent au moment non prévu. Ils viennent d'une forme non prévue. Désolé, c'est en bas, mais c'est le troisième. Ils viennent d'une manière où on l'a moins entendu. On est prêt pour des épreuves, mais ils viennent par derrière. Et ils sautent dessus. Si on pourrait les comprendre avant qu'ils viennent, ça sera quand même déjà quelque chose. Au moins, on est plus ou moins prêt. Il y en a comme ça aussi. Mais il y en a toujours des épreuves qui viennent imprévisible. Et ça, c'est aussi dans notre texte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, des épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, Louis II, ici, n'est pas trop clair, mais il y a ce « quand vous serez éprouvés » dans certaines traductions, « quand » indiquant que ça vienne à tout le monde, mais auquel vous pouvez, et le mot exposé, c'est le mot tomber. C'est un mot qui s'apparaît trois fois dans tout le Nouveau Testament. Une fois ici, la première fois, c'est les bonnes samaritaines qui est tombée parmi des voleurs. C'était imprévu, c'est rien faire. Il était sous la dominance de quelque chose qu'il n'attendait pas. Une épreuve est quelque chose qui domine, que vous n'attendiez pas souvent. La deuxième fois que ça s'utilise, c'est en Actes chapitre 27-41, où Paul était dans le bateau, et c'est une grande tempête, et ça converge sur, ça entre, où il y a une convergence entre deux courants, et puis il a dit, on l'a laissé partir comme il voulait, parce qu'il n'a rien, absolument rien à faire. C'est le même mot. Et troisième fois, c'est ici. Quand vous tombez dans une épreuve imprévisible, vous ne saviez pas que ça venait, mais ça venait. Nous devons connaître la parole de Dieu pour savoir ce que c'est des épreuves. Et deuxièmement, nous devons avoir une attitude qui honore Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure, cette attitude ne peut pas aller plus loin que notre compréhension des épreuves. Cette attitude est proportionnelle à notre compréhension. Comprendre ce que c'est que Dieu est en train de faire. Sachez que l'épreuve demande une bonne position avec Dieu. 17 fois dans Jacques, Jacques parle aux gens comme des frères. Mes frères, certaines sont exclues. Le conseil que l'apôtre Jacques est en train de donner ici n'est pas pour tout le monde. Dieu a du conseil pour ceux qui sont en Christ. Notre position avec Christ, celui qui a un cœur régénéré, un cœur équipé avec ce qui est capable de capter les ondes de Dieu, de sa parole, pour comprendre, faire du sens. Il y a des ondes qui tournent dans cette pièce. Et si vous avez un récepteur radio, tu peux tourner une certaine fréquence et à un moment donné, quand tu tombes sur la bonne fréquence, les ondes qui correspondent avec cette fréquence, ils arrivent, ils entrent dans ton radio.
poste de radio et vous écoutez ce qui est là. Et si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est purement simplement parce que Dieu nous donne son esprit pour vivre dans le cœur qui permet une connexion entre ma connaissance et la parole de Dieu pour que je comprenne des choses que je n'aurais pas pu comprendre avant. Et je peux ajuster mon attitude par rapport à ce que je sais. Ça exige que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Ça exige que nous connaissions la justification par la foi. Ça exige que nous soyons délivrés du royaume des ténèbres où nous habitions avant. Et ceux, sans épreuve, vont assurément continuer dans la joie de leur précipitation vers leur destruction dans le royaume des ténèbres, sans savoir ce qui se passe. Et Dieu permet des épreuves pour eux, et encore plus pour nous. Donc ça exige une position avec Dieu, et ça exige aussi une confiance. Regardez. Scrutez, réfléchissez. La foi chrétienne est pour réfléchir. La foi chrétienne est pour ceux qui pensent. La foi chrétienne est pour ceux qui veulent pousser au maximum leur intelligence et capacité de penser. Et la foi chrétienne est logique, rien que plus de logique. Si vous n'êtes pas connecté, il n'y a pas de sens. Quatre choses rapidement avant de terminer. Cette attitude donc demande une soumission obéissante par rapport à ce verset. Mes frères, considérez comme un sujet de joie. Ce qui est intéressant, il y a 108 versets en Jacques. Il y a 54 impératifs en Jacques. Donc ça fait un pour tous les deux versets. Exact. Le tout premier, parce que c'est verset 2, le premier verset c'était juste une salutation rapide et puis tout de suite regardez comme un sujet de joie complète. Regardez, ça c'est un impératif. Vous devez le faire. Vous n'avez pas le choix de faire autrement. Imaginez quand vous regardez sur le panneau à l'université et vous voyez votre nom, vous êtes première avec mention, le plus haut possible. Et quelqu'un dit, écoute Thierry, regarde comme un sujet de soi. Non, moi je ne veux pas. Mais si tu veux voir ça, c'est normal, c'est logique. Excuse-moi Thierry, je ne veux pas parler toujours sur toi, mais tu me comprends. Et puis, c'est logique. On parle de la réalité, on ne parle pas de la fantaisie, on ne parle pas de mysticisme qui est juste subjectivement à l'intérieur et ça dépend de qu'on peut penser. On parle des vérités objectives qui sont correctes et qui sont vraies. Regardez comme un sujet de joie complet. Ça demande une décision calculée. Je décide de le faire parce qu'il y a quelque chose en moi qui résiste à ça. Quand même, je sais ce que c'est. Je ne veux pas avancer si ça veut dire que je suis plus discipliné. Mais pourquoi pas dans des études, donc? Pourquoi est-ce que vous faites des concours? Pourquoi est-ce que vous faites d'autres choses? Vous faites exprès pour que vous soyez éprouvés, pour que vous soyez remontés en capacité. Mais quant à la vie chrétienne, à la vie éternelle, on résiste. Non, il faut calculer ce qu'on sait. Dieu dit que c'est un sujet de joie, et c'est un sujet de joie, et je dois aussi avoir un rejet déterminé de tout ce qui dit le contraire. Parce que, et il n'a pas dit, mes frères, sentez comme un sujet de joie. Parce que je ne sente pas. C'est pas une question de sentiment. Nous sommes obligés de prendre en main nos sentiments, nos émotions, et de dire, arrête, arrête de se joyer, d'avoir de la joie de cette idée d'élimination. Arrête! C'est pas bien. Un sentiment, arrête-toi. Arrêtez le sentiment qui veut s'éliminer parce qu'il veut plus de pression. Et dire aux sentiments qui disent, et dire à votre volonté, non, engagez-vous dans cette épreuve parce que vous ne pouvez pas aller plus loin sans. Cette épreuve est calculée exprès pour toi, tes besoins, par Dieu qui sait tout. Il n'a que le bien comme intention envers toi. Calculer l'acceptation et le rejet de tout ce qui est contre. C'est pour cela qu'il dit une joie parfaite. C'est-à-dire complète. C'est un mot qui dit pur. Pur. Il y a plein de nos désirs qui ne sont pas purs. Il y a même plein de nos considérations. Parce que nos considérations sont souvent assujetties à nos émotions qui sont assujetties à notre corps qui désire ça et qui ressentent ça, et donc qui utilisent son intelligence pour justifier ce qu'on veut faire. Logiquement. On tourne en ronde logiquement vers notre déséquilibre, même en tant que chrétien. Non, ça exige, et dernièrement, ça exige une anticipation d'espérance. On regarde vers l'avenir. Espérance est toujours une idée futur. Par présent, je n'espère rien, sauf pour le futur, en 10 minutes, en 10 jours, en 10 ans, en 1000 ans, pendant toute l'éternité. Notre espérance est proportionnelle à notre connaissance. C'est pour cela le premier mot dans le prochain verset que nous n'avons pas touché, c'est « sachant ». Sachant, il faut savoir certaines choses. Une compréhension de la raison d'être des épreuves et une attitude qui correspond avec cette compréhension. Nous devons l'avoir. Nous devons venir vers lui. Nous avons le droit de tourner en ronde comme un ballon qui précipite jusqu'à la précipice. On a le droit de faire comme ça. Mais Dieu engage des épreuves particulières pour ceux qui vont croire en lui d'une manière différente que les autres. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Pourquoi regarder? Parce que c'est ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Joie. Et plus que nous voyons comme un sujet de joie, plus que ce n'est pas juste une tolération stoïque. Il n'a pas dit stoïquement tolérer ce qui arrive parce que bon, c'est comme ça. Non, non. Il a dit regardez comme un sujet de joie. Paul va souligner la même chose, Romains 5, verset 3. Et que Dieu nous aide à être obéissants. Avec un esprit de soumission, avec une attitude décisive, avec un rejet déterminant et avec une prévoyance de ce que nous savons par rapport à l'avenir. Prions Dieu.